La phrase d'accroche, parce que ce n'était qu'une phrase d'accroche hier, ce discours Miss France, je suis pour la paix dans le monde. Et pour resituer un peu les choses, il s'agissait en fait hier de planter ce qu'on appelle le désir, planter dans le sens d'acter que l'humanité et les chrétiens en particulier, on honore cette dimension du fait la dimension du désir, c'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir un horizon absolument immense et formidable, en apparence inatteignable, horizon, qui va créer une tension, c'est-à-dire que ma réalité, elle est ce qu'elle est, elle est plurielle, difficile, compliquée, heureuse, formidable, tendue vers ce désir, et du coup, on a cette espèce d'écartèlement entre un réel qui est là, et qu'avec pragmatisme on doit honorer, c'était toutes les dimensions du combat, etc., et puis un désir qu'on ne va pas lâcher, parce qu'en fait Dieu est le partenaire de ce désir, et il nous chuchote à l'oreille, ensemble on y arrivera. Donc ça c'était un peu la posture d'hier, essayer de récupérer cette dimension désirante avec cet allié exceptionnel qu'est le Seigneur. Et donc du coup on a le droit de rêver grand, de rêver beau, et on a le droit d'agir en fonction de cette réalité, parce qu'elle n'est pas que inatteignable, elle est promise, elle est rendez-vous, elle est possible. Hier, il y a eu une question du côté de la combativité, du coup c'était un peu lourd d'être constamment dans le combat, tout ça, et la phrase d'aujourd'hui, donc je suis pour la... Voilà, désir fou et beau, qui sortent à une réalité plus difficile, et notre foi, tenir ce cap, car Dieu est celui qui vit avec nous, en nous, pour nous, toutes les formules chrétiennes du monde et de la terre. Donc je suis pour la paix dans le monde. Voilà un peu une reprise d'hier. Je suis vraiment désolé, c'est la phrase d'aujourd'hui. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Alors, la limite de cette phrase. Encore le combat, ras-le-bol. Donc je changerai d'image tout à l'heure. Parce que il y a encore cette dimension de combat. Bon, remplaçons combat par tension, remplaçons combat par complexité, remplaçons combat peut-être par pragmatisme. Le génie du christianisme, c'est qu'il est pragmatique. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'imaginer ou de rêver une humanité qui n'existe pas, on part de notre réel. Et notre réel, il est complexe. Du coup, choisir dans cette complexité ce que je suis, comment je me dirige, ça va être ça l'enjeu d'aujourd'hui. Alors ce que j'aime quand même dans cette phrase, c'est que si tu veux la paix, prépare la guerre, il y a une volonté, si tu veux. Mais je veux quoi ? Comment rallumer cette volonté ? Comment y avoir accès ? Est-ce que je veux vraiment quelque chose ? En ce moment, je veux rien ? En ce moment, je veux quelque chose ? La question va se poser. La paix, ben, on a un objectif clair au moins. Il est peut-être immense et inatteignable, mais il est très clair. Et sa coloration, elle est sans ambiguïté. Vouloir la paix, c'est vouloir la paix. Et ensuite, ben, on est invité à être stratège. C'est-à-dire comment je prépare, parce que c'est préparer la guerre, c'est pas faire la guerre. Comment je prépare ma stratégie pour que la volonté que je souhaite, avec son objectif, la paix, ça se mette en œuvre. Évidemment que cette phrase, je l'ai prise parce qu'elle est ambiguë, parce qu'elle n'est pas simple, parce qu'on ne voit pas vraiment ce qu'elle veut dire. Elle décrit aussi notre réel complexe. Mais cela étant, ben, il y a quelque chose d'intéressant de se dire qu'est-ce que je veux, pour quel objectif, comment je m'y prends. Sachant que la paix, objectif clair, c'était plutôt le thème d'hier. Aujourd'hui, je vais essayer d'avancer sur la stratégie. Comme vous en aviez ras-le-bol du combat, je me suis dit, on va faire un autre détour. Nous sommes là, en attitude, c'est un peu le deuxième psaume d'aujourd'hui, en attitude de contemplation. Vous les phares, bénissez le Seigneur. Vous les jetés qui s'élancent dans la mer, bénissez le Seigneur. Vous les cailloux, bénissez le Seigneur. Vous, cailloux du sable, vous plages, bénissez le Seigneur. Vous tous, rayons de soleil, bénissez le Seigneur. Et nous sommes là, humains, plantés devant ces décors, et imaginons là quelqu'un de familier de ce décor-là, et qui, tous les jours, régulièrement, admire, regarde, contemple. Et voilà que, vivant dans cet environnement-là, émerge le désir d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Paraît-il, il y a une ville formidable qu'on appelle New York. Moi, je vois tous les jours des bateaux qui quittent cette jetée, qui s'élancent et qui y vont. Arrive ce désir de traverser l'Atlantique. Alors forcément, il faut être sérieux, se former un peu, repérer sa carte, repérer sur la carte le point de départ, le trajet qui va être le mien en fonction des courants marins, des vents, des température de l'eau, du Gulf Stream, etc., vu qu'on va aller vers les Canaries, on descend, on traverse l'Atlantique en montant les courants, et hop, en longeant la côte, on arrive à New York. Phase de préparation normale, pragmatique, quand on a envie d'entreprendre une aventure importante. Arrive un jour formidable, celui du départ. En même temps, vous savez, vous imaginez très très bien la complexité qu'il y a à l'intérieur, quoi. La tristesse de quitter, la joie de s'élancer, et puis petit à petit, cet émerveillement formidable de prendre de la distance, de découvrir toute la côte qui se dessine aussi, ce que je n'ai jamais vu. Mon quotidien, mon ordinaire avec distance, et puis la nuit arrive, vous étoile, vous lune, bénissez le Seigneur, on l'a chanté ce matin, et puis aussi tous ces phares qui s'allument sur la côte, et je découvre ces scintillements absolument magiques. C'est le départ. La joie, là, elle est intense, elle est forte, elle est formidable. Et comme c'était fixé sur le plan, petit à petit, notre navigateur, notre navigatrice avance, part et s'élance. La traversée est assez formidable. C'est fait de jour, c'est fait de nuit. La nuit, c'est compliqué, il faut apprendre à dormir. Donc il y a toute une technicité qui se met en place. Et il y a aussi des surprises dans l'existence. En mer, c'est ce qu'on appelle des ophnies, des objets flottants non identifiés. C'est-à-dire des objets qui sont là, invisibles, souvent sous la surface de l'eau, et le percuter est quelque chose qui peut arriver, et notre navigateur, notre navigatrice rencontre cet ovni. Le moyen sur lequel tout reposait est sombre. Et voilà notre individu perdu au milieu de l'océan, avec, comme par hasard, des emmerdes qui volent toujours en escadrille. C'est une phrase de Chirac, je crois. Comme ça, c'est hyper vrai. Et forcément, perdu au milieu de nulle part, vous imaginez bien que le moral de notre personnage est dans les snowboots ou dans... Enfin voilà, c'est pas formidable avec cette question de qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je me suis mis dans une merde pareille? C'était quoi l'idée qui m'a traversé la tête pour me mettre dans un pétrin pareil? Oui, si, quand même, quand je réfléchis un peu, j'avais ce désir complètement fou, il faut arrêter de déconner, quoi, de rejoindre New York, en transatlantique, seul ou en équipage, peu importe. Mais pourquoi j'avais ce rêve-là? Parce que j'admirais ce lieu dans lequel j'ai grandi. Il y avait cet appel à partir, à y découvrir, à regarder. Le beau m'avait dit quelque chose, je m'en rappelle. Oui, mais enfin, aujourd'hui, je suis quand même dans une merde noire. C'est quand même difficile l'existence. Et là se pose une question, que fais-je? J'arrête tout parce que j'en peux plus. Ou alors, le peu que je puisse faire, allez, yalla, debout, c'est le seul truc que je puisse faire. Alors je me lève, mais me levant, je scrute. Et scrutant, certes, j'ai pas plus à faire, j'attends, je regarde, j'observe. Face à l'immensité du monde, quelle attitude ridicule, minuscule, impossible. Et pourtant, petit à petit, le temps aidant, les choses s'ouvrent et ce qui n'était pas imaginable arrive, et pourtant je me suis mis debout pour ça. Et voilà que je change de moyen, mais je repars, et repartant, j'espère arriver. J'avais un rêve au départ, et dans cette parabole, le rêve a permis d'entreprendre, de partir. Évidemment que c'est une parabole, c'est-à-dire que New York, si c'est votre Eldorado, bon bah c'est atteignable. C'est notre désir, en fait, il est encore plus grand que ça. Est-ce que là-dessus, il y a quelques commentaires, remarques, pour lancer un peu, comme on est dimanche matin, ça? Ça peut être des écolibres ou de l'humour. Qu'est-ce que ça remue comme terrain, comme émotion, comme écho, comme contradiction?
Moi, je trouve qu'il manquait la loi des emmerdes, c'est-à-dire que sur son petit radeau, il aurait pu avoir la tempête, des grosses vagues. On pourrait en rajouter. Mais...
Moi, je me demande quelle est la part d'illusion dans le fait de se projeter dans ce New York qu'on idéalise, etc. Et quelle est la part de piège, en fait. Je vais me diriger vers ça, mais est-ce que c'est vraiment vers ça que je vais aller? Est-ce que c'est pas une manière de nier la réalité dans laquelle je suis en envisageant que l'ailleurs que je ne connais pas est meilleur? C'est piégeux quand même. Enfin, comment voir le Seigneur là-dedans, il m'envoie, est-ce que c'est pas moi qui me fais illusion?
Est-ce qu'on peut pas aussi mourir en mer? Et de jamais voir nous au New York. C'est pas gagné qu'un bateau passe et qu'on gagne.
Et ceux qui n'ont pas envie de partir?
Il y a ceux qui n'ont pas envie de partir, ouais. on pourrait continuer. Moi, ce qui m'intéresse là, déjà, ça ne va pas être de commenter la parabole, ça va être de sentir comment nous, comme chrétiens, quelle parabole on raconte aujourd'hui pour faire parler nos contemporains. J'ai aucune réponse à vous donner là. Ce qui m'intéresse, c'est la fécondité d'une histoire pour vous ou nous avoir des mots et essayer par ces mots de chercher, d'éclairer nos vies et de faire ces espèces d'allers-retours. De fait, pourquoi il est parti seul, je ne sais pas. Est-ce que c'est le bon cap, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres manières de faire, je ne sais pas. Mais c'est une histoire, vous voyez, qu'on a en face de nous et qui va nous permettre, en étant questionné, de nous faire avancer. Toute l'écriture est en fait construite comme ça. Et ce qui est important pour comprendre l'écriture, c'est votre imagination. C'est pas qu'est-ce que ça veut dire. Enfin, c'est sans notre capacité de lecteur à interroger le texte, ça veut rien dire. C'est-à-dire que c'est des textes, c'est des humains qui ont raconté ça. Enfin, merci pour cette remarque de dire ça dit ce qu'on vit. Mais en fait, oui, chercher à raconter ce qu'ils vivaient. Et je crois qu'en effet, là je me permets quand même un petit commentaire parce que j'aime bien cette parabole, elle a été faite pour votre marque. Avec cette définition, alors si vous êtes éduqué, n'écoutez pas, ça va être moche. La foi, c'est ce qui reste quand on est vraiment dans la merde. C'est-à-dire qu'au plus bas de la difficulté, le fait de me dire « j'arriverai quand même », cet homme-là, quand il est au plus bas et qu'il dit « j'arriverai quand même », c'est ça la foi. Celui d'entre nous qui en fait un truc facile, c'est qu'il n'a pas compris ce que c'était. Quand tout va bien, son pédale, et qu'il arrive à New York, c'est pas la foi. C'est l'observation. J'arrive à New York. Ça procure beaucoup de joie. Je suis très heureux d'être là. J'étais parti pour de mauvaises raisons, j'arrive autrement. Peut-être qu'il va recorriger tous ces trucs, il va arriver à New York. En fait, ce n'est pas du tout un objectif, New York. Je suis triste à souhait, mais je suis vivant. Par contre, quand j'ai tenu dans la plus grande difficulté, là oui, j'étais accroché à quelque chose. J'étais accroché à quoi? Je viens de là-bas. Mes racines. Le pourquoi je suis parti est peut-être beaucoup plus précieux que le où j'arrive. Enfin, là, je laisse les choses ouvertes, j'en sais rien. Et vous voyez, il y a quelque chose de se dire comment je me laisse interroger. C'était un petit détour post-publicitaire. Comment être missionnaire aussi? Objectif d'aujourd'hui, essayer d'expliciter pour nous ce que c'est que de naviguer dans ce monde complexe et d'essayer d'être partisan, suiveur de la paix. Donc on a compris que la réalité était complexe, qu'on ne savait pas si nos caps étaient les bons, si nos actions sont les bonnes, si on a la quantité de foi qu'il faut pour continuer, parce que j'ai plus d'énergie. Donc comment dans cette complexité-là, on essaye d'avancer? Le but du jeu, ça va être, moi je pense, de gérer nos attaches. On pourrait dire aucun de nous n'est libre. C'est-à-dire on a tous des attaches, et en fait la manière de gérer ces attaches, elle est plus ou moins bonne, ça n'a aucune importance. Le fait de le savoir, on devient gestionnaire de ses attaches. Je m'attache à telle personne un temps, mais du coup je m'éloigne d'autre, je l'observe, comment je réagis. Est-ce que c'est connaître mon environnement, en fait, la liberté? Ben, les vents changent, mes motivations se clarifient, ben, donc je vais clarifier mon action. Mais je ne vais pas me reprocher d'avoir mal agi, je ne savais pas. C'est pas grave. Enfin, vous voyez, là je suis en train de se dire, on a du temps pour sentir. Vivre, c'est sentir l'existence, c'est améliorer les choses, c'est se planter, c'est pas grave du tout. Dans une navigation, à un moment, vous prenez le mauvais courant, le mauvais vent, bon ben, on s'éloigne, on fait le point carte et on corrige. J'ai envie de transmettre cette espèce de bienveillance envers nous-mêmes, de dire, mais vivre, c'est vivre. Vivre, c'est pas faire bien, faire conforme, faire ceci, faire mal. Non, vivre, c'est avancer. Et le marin, quand il se plante de trajectoire, quand il a du gros grain, il sent les choses. Et il navigue. Et ce que j'aime beaucoup dans le début de la parabole, c'est « et il aime naviguer ». Donc il y a un immense enjeu d'abord, c'est de se lancer dans cette aventure en disant « mais c'est pas commode, hein, mais j'aime vivre ». Et vivre, c'est me planter et réussir. J'aime ça. Et quand je me plante, qu'est-ce que j'en apprends? Et quand je réussis, qu'est-ce que j'en apprends? Et en fait, j'apprends à vivre même. Et c'est ça qui est beau. Donc, d'avoir déjà en tête ce côté très dynamique de nos existences. On est constamment à améliorer notre sentir, à gérer nos attaches, les bonnes et les pas bonnes, et on découvre petit à petit, à connaître notre environnement, à s'émerveiller, à découvrir. Et toutes ces attitudes vont forger la liberté, et puis notre capacité du coup à suivre et développer la paix. Alors, là je vais être un peu plus technique, technique ignatien, je suis jésuite, ça va être signé, c'est plein pot, 100%. Notion spirituelle. Alors spirituelle, évidemment, c'est le langage du Seigneur. Le Seigneur qui nous communique son esprit. Mais c'est aussi le langage de l'ennemi qui va communiquer son propre esprit. Donc la vie spirituelle, ça va être écouter les esprits. Ça tombe bien, notre monde, il a chopé ça en disant, dans la vie, on a plusieurs états d'esprit. Quand je me suis levé du pied gauche, c'est le pied gauche qui décide... Non, c'est l'autre. C'est le pied gauche qui décide de ma journée, et je vais avoir une journée pourrie. Ben en fait, qu'est-ce qu'une notion spirituelle? On va regarder, ben, il y a un individu, alors c'est très personnel, mais on peut le mettre au niveau de la société, d'une institution, ou peu importe. Je prendrai l'échelle individuelle, c'est plus simple. Mais ce n'est pas une limite. Je suis là, planté dans l'existence, et en moi, je sens que ça bouge. Marée haute, marée basse, beau temps, mauvais temps, il y a toute une diversité de choses à l'intérieur. Et les choses que je vis extérieurement, là je suis en week-end devenu pas en Christ, ont un écho à l'intérieur. Ah, c'est bien, ou le contraire, hein, ce qui n'est pas le week-end, mais c'est pas bien. Peu importe. Je sens déjà que ça crée une complexité qui va me pousser à agir ou pas. C'est-à-dire que ce week-end extérieur, proposer des événements, une parole, des choses comme ça, rentre en moi et tac, ça vient interagir avec ce que je suis. L'objectif, c'est à travers ces mouvements intérieurs profonds, parce que en fait tout n'est pas clair sur le moment. On peut sortir du week-end en disant c'était bien, oui, puis c'est mercredi, jeudi, en y repensant, en disant mais telle phrase j'ai pas aimé, quoi, ça me gêne, telle autre, ah oui, ça y est, je conscientise, ça remonte. Vous voyez, donc on a, je dirais, un magma qui a besoin de temps pour évoluer. Dieu est là. Si vous cherchez Dieu ailleurs, bon courage. Mais je veux dire, tout l'enjeu de Noël, c'est de dire, allez pas me chercher loin, je suis discret, mais je suis là. Donc en fait, dans cet environnement-là, moi, qui perçois des événements extérieurs qui ont un écho à l'intérieur, là, il y a Dieu qui chuchote. C'est-à-dire, nous avons tous Dieu dans la poche, pas loin de l'oreille, qui nous dit des choses. Et coup de bol, son langage, c'est entre autres la paix. On va voir comment. Comment l'écouter? En fait, c'est d'aller voir, mais objectivement, avec ma réflexion et mes tripes, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est l'objectivité. Qu'est-ce que ça m'a fait? Comment j'ai ressenti la chose? Et de là, mais qu'est-ce que j'en fais? Ma responsabilité, ma volonté. Donc, de fait, il va falloir développer le stratège, que nous sommes tous, toutes, pour avancer et sentir davantage, bon, ben moi, je ne veux pas rater les indices de Dieu quand il me parle, donc, je vais essayer de capter les choses. Nous sommes tous malins, plus que le malin, et donc, on n'oublie pas que le malin existe. Évidemment que Dieu parle, mais l'autre va chercher à me fourvoyer, à me tromper. Le sens de l'observation, c'est clé. Ça va être quoi? En fait, vous avez du métier. Vous avez de l'expérience. Si Dieu nous a créés, il est là depuis le début de l'histoire. Donc quand on commence, Dieu est là, il est observateur. Et il voit, je vois, et je peux regarder mon histoire. Tiens, c'est marrant, oui. De fait, ma vie, là j'en suis là aujourd'hui, mais elle est faite de haut et de bas. De crises et de moments plus léger, plus joyeux, avec des caractéristiques. Si on pose la question qu'est-ce que j'ai fait, ben oui, tiens, peut-être là, c'est, je me parlais hier, là, ce très bon camarade, quand je suis en classe de 5e, qui redouble, du coup je passe mon année de 4e seul, j'y vais à la bibliothèque, et je lis Train Magazine, tout seul. Ne riez pas, c'est ma vraie histoire. Et du coup je suis isolé, et toute mon année de 4e, je la passe isolée, pas de potes. Je fais rire personne, je parle à personne. La cloche sonne, elle me libère, plus besoin de parler. Ça, c'est mon année de 4e. Bon, évidemment, quand je vis l'année de 4e, j'ai aucune envie de m'y replonger, ça m'intéresse. Mais aujourd'hui, comme adulte, tiens, je me dis, ah, qu'est-ce que j'ai à découvrir là? Il y a le fait, le redoublement de mon camarade. Et ensuite, il y a ce que ça m'a fait. Ah oui, tiens, alors comment... De fait, commençons par de la méthodologie. Il y a toutes ces phases heureuses. Ces phases de croissance, de développement, j'ai compris quelque chose, j'ai retrouvé des camarades. En général, ces phases-là, on ne s'en rend pas compte. Pour les marins parmi vous, c'est vent arrière. Du coup, je vais à la même vitesse que le vent, je ne me rends pas compte qu'il y a du vent. Moi, ça m'arrive tout le temps dans Paris, en vélo. Je peste quand il pleut et que j'ai le vent en face de moi. Et comme par hasard, je pars en retard. Vraiment, vie de merde. Quand j'ai vent arrière et que je pars en avance, pourquoi je ne dis pas merci au vent? Parce que je ne m'en rends pas compte. Donc ça demande une vraie analyse de se dire, oui, c'est quoi ces phases dites de consolation, ça c'est un terme technique, ça veut dire Dieu est palpable, son influence est nette, le vent est bon, j'avance dans la bonne direction. En fait là, il y a toute une complexité d'émotions qui sortent, de pensée, on pourrait dire d'illusion, mais alors là je vais faire exprès d'être compliqué, d'illusion au sens espagnol. Les Espagnols, le mot illusion, c'est assez clair, c'est je me trompe. Les Espagnols, le mot illusion, c'est il y a de la lumière. C'est, je suis illusionné, c'est-à-dire je suis tourné vers la lumière, mais elle peut tromper. Mais je suis tourné vers la lumière. Donc on a cette complexité-là, mais dans ces phases-là, en général, justement, on n'est pas trompé. On y croit. Ces phases-là ne sont pas la totalité de l'existence. Il y a évidemment toutes les phases où vous allez dire « Mais non, mais j'étais défoncé, c'était pas vrai, de toute façon c'est pas, de toute façon ceci, de toute façon cela, tout, pas compliqué, puis les crises, c'est toujours les crises, puis j'y crois pas, puis faut arrêter d'être naïf. » Et toutes ces phases-là où c'est marrant, sur la même problématique, objectivement, il n'y a pas forcément grand-chose qui a changé. Typiquement là, mon camarade a redoublé, mais moi je deviens, je suis nul, je connais personne, je dis « Wow, c'est lui qui a redoublé, c'est pas moi. » Et pourtant, c'est moi qui vais déprécier tout ce que je suis. Très intéressant d'aller analyser cette phase et puis donner un nom, de se dire en fait c'est de la désolation. Techniquement, on dit je suis comme coupé et détaché du Seigneur. C'est-à-dire, je suis, on pourrait dire, en égoïsme pur, pas moral. Je m'en fous de la morale. Égo, moi, il n'y a que moi. C'est-à-dire, mes petites forces ne suffisent pas à vivre, je n'arrive pas à vivre, je suis complètement replié sur moi-même, la vie est horrible, quoi. Ce n'est pas la réalité, c'est ma perception. Et à savoir ça, oh là là, ça révèle le stratège. Ah, c'est ma perception, oui, 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 c'est pas la réalité. Donc à observer ces phases, je vais pouvoir observer les discours que j'ai dans ces phases, je vais revenir là-dessus. En tout cas, qu'est-ce que ça m'a fait en reprenant mon histoire? Je peux petit à petit apprivoiser la machine, quoi. Ah oui, j'ai des phases différentes, et je sens que tac, dans ces phases-là, je sens ceci, dans celles-là, je sens cela. De nouveau, la question c'est qu'est-ce que j'en fais? Étant dit, mais vivre comme disciple du Christ, comme partenaire du Christ pour développer la paix, la joie, l'amour, notre discours Miss France, quoi. Comment je suis artisan de paix, évidemment. Qu'est-ce que la foi là-dedans? Ben justement, la foi, ça va être de se dire, si le Seigneur est toujours présent, quand moi je ne le vois pas, je peux danser sous la pluie. Je peux, dans les phases de désolation, apprendre. C'est un apprentissage. Évidemment que je ne sais pas faire au début. Moi, je l'ai mis dès le début là-bas parce que c'était un enfant sur la photo. Et que parfois, les enfants, ils savent mieux le faire que nous. Mais danser sous la pluie, c'est petit à petit apprivoiser qui je suis. Et croire, c'est croire le mot, que la vie est belle quand moi, je ne la vois pas belle. Parce que je vois ce qui me détruit. Je suis tout seul en bibliothèque à lire un magazine. Je suis un être incapable de toute socialisation. Alors que j'ai faim. J'ai faim de l'autre, j'ai faim de parler, j'ai faim de partager. Je suis frustré de ne pas vivre socialement. Tac, nouvelle phase. Oh, alors là, profitez. Profitez. Émerveillez-vous, faites le plein. Et gardez ça en tête. Ah oui, je suis capable de vivre de manière heureuse. Pourquoi? Parce qu'après, j'ai une amnésie de dingue. Poum, crise suivante, j'oublie tout, de toute façon, je suis nul. Et je sais que je suis nul, je l'ai déjà été, et j'ai la preuve, et j'ai eu 5 en maths. Quand on est petit, c'est, oh, la vie est foutue. Si c'est histoire géo qui vous passionne, 5 ans d'histoire géo, peu importe. Et de nouveau revient une phrase, on profite. Alors là, on a un vrai stratège. Là, on est déjà dans une phase où on est capable de se dire, en fait, j'ai identifié les phases de l'existence et je n'ai pas la même attitude en fonction de la phase dans laquelle je suis. Prenez le marin, vent arrière, c'est pas la même navigation que vent de côté. C'est en fonction du vent dominant dans mon existence, je n'adopte pas la même réponse à l'existence. Donc je suis en phase vent arrière, je profite, c'est beau, je m'arrête, je profite, la vie est belle, et je le note. Pourquoi? Parce qu'après la pluie, non, après le beau temps, la pluie, là je suis dans le beau temps, après la pluie, beau temps, j'ai toutes mes notes là de profiter, elles vont me servir pour croire. En ce moment, je ne vois rien, je suis dans le grain le plus total, mais je me rappelle mon histoire, ce que je veux, ce que je désire. Écoutez, Dieu est décidé. Je vais reformuler un peu les choses cette fois de façon un peu plus technique ou pratique. Ben, c'est regarder la consolation. Ça, vous l'avez compris. Et dans chaque consolation, c'est d'aller repérer le langage de Dieu. À chaque fois, dans la consolation, il me donne joie, paix, tranquillité. Quand il m'a donné joie, qu'est-ce qui a provoqué cette joie? Et cette paix, elle était là, pourquoi? Et j'apprends à la reconnaître. Et je vais petit à petit tutoyer cette paix que j'ai rencontrée dans ma vie. Cette paix, si elle a la taille d'un enfant, notre cerveau adulte, il disqualifie. Je pourrais expliciter hier l'exemple de notre enfant en cinquième, qui écrit 3 lignes dans le journal du collège et ça lui procure une joie immense. Notre cerveau adulte, il dit « Tu fais trop de fautes d'orthographe, tu ne seras jamais journaliste, lâche l'affaire. » Mais l'enfant, il dit « Non, j'y ai éprouvé une joie. » Récupérez l'enfant que vous êtes. C'est-à-dire cette capacité d'écoute, des joies, même minuscules, des paix qui sont données dans l'existence, de la tranquillité qui arrive, et de se dire « Hey, ça, moi je connais, c'est le like de Dieu sur mon existence, je le chope et je vais voir ce que ça me raconte. » Comme Dieu existe et qu'il nous a créés, il nous parle à tous, on est tous capables de l'entendre. Donc allons-y, n'ayons pas peur. Ça, c'est le langage de Dieu. Petit à petit, en repérant dans mon histoire son langage, en fait, je peux petit à petit apprivoiser sa manière de me parler ou ma manière de l'entendre. Et comme c'est un dialogue, c'est évidemment les deux. Il a une manière très personnelle de s'adresser à chacun de vous. Et donc, je ne peux pas rentrer dans les détails plus, puisque c'est votre part maintenant. Ah oui, Dieu, eh ben, c'est un chemin d'enquête en fait, on est flic. Hein. Ça va être de se dire, ah ben j'ai senti de la paix, ah si j'ai senti de la paix, alors attendez, j'ai de la paix, je vais suivre le fil de la paix et me dire qu'est-ce qu'il y avait derrière. Ah mais c'est tiens, j'ai retrouvé des amis, ah quel type de relation on avait. Un exemple sur les amis. Bon, moi j'ai grosse difficulté scolaire à l'école, enfin pas grosse, non justement pas de grosse difficulté scolaire à l'école, mais vous savez le anonyme, absent quoi, pas assez mauvais pour être vu, pas assez bon pour être vu. Je me demandais si les profs connaissaient mon prénom. L'école, ça a été long, hein, du coup. Parce que de la maternelle au fin du lycée, j'ai pas été très heureux. Quoi. Au lycée, je suis pris nulle part. Donc, pan, la société me dit, oui, bah, si tu trouves autre chose à faire, nous, on n'a pas besoin de toi. Donc, occupe-toi, mais nous, on n'a pas besoin de toi. Message hyper agréable. Quoi. Et là-dedans, quand on n'a pas confiance en soi comme ça, comment entendre les messages de Dieu. Et moi, ça a été super dur de dire, mais comment il me parle, quoi. J'ai pas entendu de joie, de paix. Et ben des choses ridicules. J'aimais imiter les chiens. Aujourd'hui, aux jeunes, sur Parcoursup, je leur dis, allez-y, cherchez la case. Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Imitateur de chiens. Alors, ils ont oublié la case. Et en fait, ces choses-là, il y avait une réelle paix à imiter les chiens. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un animal qui n'a qu'une seule attitude à la fois. Pourquoi c'est le meilleur ami de l'homme? Parce qu'il renvoie à l'homme de façon très claire ce qu'il porte, le chien. Il est transparent. Quand il est content de vous voir, d'ailleurs, les vidéos de chien, on adore, hein, il est content de vous voir. Il est content de vous voir, quoi. Il n'est pas mélangé. Il vous déteste, il n'est pas mélangé. On a peur, quoi. Dans les films, on veut créer de la violence, on met des dogs allemands. Donc en fait, le chien renvoie l'émotion humaine. Imiter les chiens, c'est en fait capter les émotions humaines et savoir les restituer. Donc en fait, quand j'ai travaillé après la Ginette, je n'ai pas imité les chiens aux élèves. La Ginette, c'est donc un établissement scolaire où j'accompagnais des élèves. Je n'ai pas imité. Mais par contre, je voyais avec clarté chez les jeunes les émotions qu'ils portaient. J'étais en fait capable de distinguer les émotions avec les différents chiens intérieurs qu'ils avaient. Et en fait, j'ai découvert que j'avais disqualifié ma capacité d'écoute. Qui venait comment? Quand j'étais dans la paix en imitant les chiens. Parce que c'était un kiff dans la rue. Je ne pouvais pas me l'empêcher. Vous voyez, les chiens, j'imitais les chiens-chiens. Parfois, j'imitais la maîtresse. Mais là, c'est pas très gentil. Mais c'est pour dire, n'ayez pas peur d'être joueur avec vous-même. Et d'aller dans ces anecdotes, plein de tendresse, récupérer l'être que vous êtes devant le Seigneur. Notre cerveau, notre adulte, il ne sait pas encore interpréter. C'est pas grave, c'est une enquête policière. J'imite les chiens, qu'est-ce qui s'y cache? Ben, je chope leur émotion, qu'est-ce qui s'y cache? Ben, je suis sensible, j'y croyais pas, moi, j'ai pleuré à 30 ans pour la première fois ou presque. Je ne croyais pas au fait que j'étais sensible. Je suis sensible, je continue. Vous voyez? Et donc comme ça, vous pouvez mener votre enquête en partant d'un fait générateur. J'aime bien dire anecdotique, une anecdote. C'est quelque chose d'extrêmement ordinaire qui ne répond pas à la question « Comment je vais être artisan de paix ?» Mais oui, la question est énorme et l'anecdote est ridicule. C'est pas grave, on a vu hier l'écart, ça ne nous gêne pas. On part de petit, on aime ce petit et on avance. Évidemment, quand je suis en phase de désolation, Parce que tu penses qu'imiter les chiens, ça va changer le monde? Je savais que ça faisait longtemps que t'étais bête, je suis content que tu le réalises. Bon! Il y a ces phases qui arrivent, et évidemment, il faut les décrypter. Comment je sens tiédeur, inquiétude, trouble? Quels sont mes tiédeurs, mes troubles, mes inquiétudes? Comment à chaque fois ça vient me choper? Avec le ridicule de la consolation, l'anecdotique, revenez des enfants. Merci monsieur, mais au travail c'est compliqué. Et c'est pas des enfants qu'on attend, c'est des adultes, c'est des décideurs, c'est des ceci, c'est des cela. Et le monde est compliqué. Oh, à chaque fois, comment ça se présente? Comme vous avez été entraîné à la tendresse dans cette phase-là, gardez exactement la même tendresse. Comme t'es mignon quand tu t'énerves. Comme t'es attendrissante quand tu perds patience. C'est formidable. Parce que du coup, on peut apprendre comment, à chaque fois, sans Dieu, je réagis. Comment ça me parle, entre guillemets. Comment à chaque fois, ça me plombe. Ça me tire là-dedans. Quoi. Et là, en fait, finalement, toujours avec tendresse, qui n'est pas un mot facile, hein, je ne le dis pas comme une injonction à soyez tendre. C'est comme les élèves. Les profs, ils veulent les aider. Il a dit, écoute, t'as eu 2 en maths, alors c'est sûr que la moyenne de classe est à 18, c'était un contrôle facile. Il faudrait que tu prennes confiance en toi. Donc là, on appelle ça, c'est un coup à... Enfin, un fusil à 2 coups, quoi. T'as eu 2, pan, et confiance, pan, comment je fais, pan. C'est horrible, quoi. Et en fait, je voudrais pas jouer ça avec le mot tendresse, avec vous. Ben non, vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas de tendresse envers vous, ça n'a aucune importance. Est-ce que déjà ça vous plairait d'apprendre ça? Oui, ça vous plairait. Ah tiens, c'est marrant, c'est un désir. C'est comme hier. Oui, ça me plairait de vivre la tendresse. Est-ce que tu en es capable? Non. Est-ce que l'horizon te plaît? Oui, avance. Essaye. Repère les absences de tendresse. Repère les absences de délicatesse. Repère les manques de foi dans le fait que je puisse m'aimer comme je suis. Et ça marche. Pourquoi? Parce que quand on est dans ces phases-là, on a repéré que ça marche. On sait que ça peut fonctionner. Repérer ça, en fait, c'est formidable. Ça y est, on a notre navigateur, notre navigatrice, on a la lecture de la météo, on a le cap, en tout cas, un cap plus ou moins clair, et on avance, et on le confirme en avançant ou pas. Et avec cette joie, cette paix, cette tranquillité, où est la vérité? Ben, petit à petit, en fait, elle est là. J'ai fait des phases à peu près égales ici. Mais ça n'a aucune importance si la consolation est toute petite. Elle n'a pas besoin d'être immense, juste. Elle se rappelle à nous en disant « j'existe ». Nous, on va vouloir qu'elle soit grande, importante, visible. Non, 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 dis juste « j'existe ». À nous de la repérer. Pour résumer, il y a 2 états. Ce serait comme la météo, il fait beau, il ne fait pas beau. Donc, il fait beau. On appelle ça la consolation, pour rappel. Et donc, dans ces cas-là, la stratégie ne va pas être la même que désolation. Désolation, c'est un autre état, on pourrait dire l'état compliqué, l'état négatif. Comme par hasard, j'ai mis Dieu à gauche. La consolation, c'est quand l'existence de Dieu est claire. Vous noterez que quand je suis dans la phase de droite, je tourne le dos à Dieu, mais Dieu n'existe. Enfin, il existe encore. Son existence n'est pas remise en cause par la météo. Qui de nous discute l'existence du soleil quand il ne fait pas beau? Rationnellement, personne. Empiriquement, tout le monde. Mais le beau temps ne va jamais revenir. Le soleil est juste derrière. Rappelez-vous ces impressions en avion, pour les quelques-uns qui l'ont déjà pris, quand on passe au-dessus des nuages. Mais comment se fait-il que le ciel soit bleu au-dessus de Paris? Enfin, je veux dire, ça fait un mois et demi que en dessous c'est mouillé, que même les chaussures sèchent, je crois que les chaussettes, on les met trempées. Et là, comme ça, en 4 minutes, comment se fait-il qu'il fasse beau? Ben oui, c'est-à-dire qu'on est fait comme ça, mais c'est pas grave, soyons tendres avec notre émerveillement. L'existence de Dieu, pour nous, Dieu n'existe pas. En plus, on est dans un monde où Dieu n'existe pas, hein, donc c'est vachement dur. Je suis en désolation, Dieu n'existe pas. Ne demandez pas mes désirs, mes horizons, mes machins, Dieu n'existe pas. Prenant conscience de ça petit à petit, je vais m'entraîner à dire, non, je ne crois pas Dieu, mais il existe, virgule. S'il existe, peut-être qu'il veille. S'il veille, je ne suis pas le seul à porter tout ça. Si je ne suis pas le seul à porter tout ça, alors je peux y aller. Si je peux y aller, go, on va changer le monde. Consolation. Là, vous avez un petit exemple du stratège qui, petit à petit, par la mémoire, va se battre pour récupérer. Comment il se bat? 3 éléments sont en jeu. Un premier élément, c'est le mauvais esprit. C'est-à-dire, c'est ces forces qui me plombent, et c'est ces discours qui vont me dire, de toute façon, ça fait un mois et demi qu'il pleut à Paris, puis avec le changement climatique, c'est tombé. Le soleil, à mon avis, il est cramé tout seul. D'accord. Le mauvais esprit qui va entretenir ces discours intérieurs. Il y a également le bon esprit, donc c'est ce vent arrière qui guide, qui ouvre, qui... J'aime la socialisation, du coup, ben, ce soir, on est vendredi, je suis fatigué, c'est pas grave, j'appelle quelqu'un, je sors quand même, je vais me promener, plutôt que d'aller regarder une série, épisode 1, épisode 2, épisode 3, épisode 6, saison 2, tac à tac, vous connaissez. Ma liberté, c'est ça. Le pilote intérieur, c'est cette capacité petit à petit à dire, je reconnais la météo, je sais dire dans quelle phase je suis, désolation, consolation, et reconnaissant cette météo, je sais qu'en désolation, le mauvais esprit parle fort, mais le bon esprit n'a pas disparu. Comment je l'écoute? Et quand je suis en consolation, le bon esprit parle fort, comment je me laisse imprégner par lui? Sachant que toujours le mauvais esprit, dans un coin, ne lâche jamais l'affaire. Jamais. Par exemple, là, je commence à y croire, j'entreprends un beau projet, on est plusieurs amis, on monte une association, l'association a un sens extrêmement beau. Et puis il y a une espèce de force en moi qui me dit ce serait quand même formidable si tous les gens pouvaient, en entrant dans cette association de dialogue, mieux se connaître. Tiens, je pense au projet par exemple La Croix est brute, vous savez, qui a eu lieu là il y a quelques semaines. Parlons-nous, je crois que c'est ça le titre. Cette espèce de je monte ce projet-là, parlons-nous, mais si tous les humains se parlaient, on serait dans la paix, les contraires pourraient être en... Tu te prends pour qui, là? Tu penses que tu vas changer le monde à coup d'association? Bah vas-y, travaille, mais enfin, vraiment, ton orgueil m'éblouit. Hein? Qui a raison? Ton orgueil m'éblouit. Force de vie formidable. Mais monsieur va changer le monde. Madame, enfin, trouve l'association, l'idée géniale. Bah avance, tu vas voir, tu vas te planter. Et en plus, ce mauvais esprit, il a raison. Évidemment, je me prends pour qui? Évidemment que ça ne va jamais marcher. Évidemment qu'en plus, le contact vient de nous lâcher et c'est compliqué. Et on ne trouve personne. Et en fait, l'adhésion à l'association est compliquée. Ah, il est malin, lui. Hein? Il est fort. Bon, bah en fait, on peut aussi le repérer. Oui, j'ai de l'orgueil, et alors? Oui, j'y crois, et alors? Oui, c'est mélangé, et alors? La cause qui est là, en fait, elle reste bonne. Je suis à travailler la paix, modestement, parce que, de toute façon, je n'ai pas le choix. Ce que je fais, je ne peux pas faire plus. Ce que je fais pas, ce que je fais mal, ben, je ne peux pas le faire autrement. Donc, j'avance. Oui, bien sûr qu'il y a de l'orgueil. Et alors? Ce que je vis, tac, je refais mémoire. Ce que je vis, c'est la paix. Merci d'ailleurs de me dire que j'ai de l'orgueil. Ça va réveiller la prudence. Et je continue. Tiens d'ailleurs, qui est ce bon ami, cette bonne amie qui pourra me dire, bon là tu déconnes un peu, je vais la chercher. Tac, du coup le mauvais esprit m'inspire de la prudence, je le prends et j'avance tranquillement. J'ai essayé par ces différentes histoires de vous décrire un peu ce que c'est qu'être pilote, stratège, un peu plus libre à suivre et s'accrocher à la paix. Ça marche pour une personne, comme je le disais tout à l'heure, ça fonctionne très bien pour une organisation. Alors il faut avoir les yeux un peu ouverts, mais je me souviens d'une jeune femme qui était responsable du master à HEC d'écologie, développement durable. Et elle me disait, c'est marrant, il y a des jours, je transmets aux élèves exactement le même cours, ma fiche ne change pas. Je suis plombante, je leur donne que des exemples, ça a mal se passer, la terre est foutue, la société est pourrie. Et le même cours, il y a d'autres moments, je leur transmets de l'espérance. Je ne sais pas comment je fais. Je lui dis, moi, j'ai une réponse. Est-ce que tu as 2 euros, tu m'offres un café? Et on discute. Oh, elle est tombée de sa chaise. Ah bon, on alterne. Face à une même problématique, je peux avoir un positionnement qui varie. Et c'est pas grave. Et si tu le sais, c'est mieux. Ah oui, j'ai compris. Vous voyez, là, il se cache derrière ce schéma, à mon avis. Et de nouveau, je parle aussi, vous voyez, j'ai un double terrain, je parle aussi aux missionnaires que nous sommes. Il y a aussi là, une super bonne nouvelle qu'on a annoncée à nos contemporains. Quoi. C'est-à-dire comment, dans l'existence, on arrive, captant les signaux de Dieu, à les repérer dans mon existence et à piloter en fonction de ce phare, qui est mon désir profond, qui est Dieu, qui est l'existence de paix. Je suis pragmatique, c'est pas toujours commode, mais mon cap est clair. Voilà.
est-ce que vous mettez notamment la maladie, la maladie mentale, la dépression par exemple. Comment est-ce que après une dépression profonde, vous pouvez repérer ces phases d'espérance et ne pas rester dans la désolation?
Ça rentre en fait dans les contours de la personne. Certains, ça va être de la dépression, de la maladie, d'autres, c'est d'autres biais, des biais psychologiques, cognitifs, etc. Moi, je dirais ça n'empêche absolument pas Dieu de parler. Ce qui est compliqué, c'est la compétence, par exemple, de l'accompagnateur, qui pourrait être moi, je prends cette posture-là, je vais essayer d'aider cette personne-là, la compétence, à un moment, de ne pas lui lancer des injonctions. Typiquement, le dépressif qui n'est pas encore diagnostiqué, oh, écoute, essaye d'aller mieux. Enfin, je veux dire, ça va, la vie est belle. Qui sont en fait des messages agressifs pour son profil. Donc je dirais, la première chose, ça change, pour moi, ça ne change pas le schéma. Par contre, l'immense intérêt de la science, c'est qu'elle va changer ma manière de parler à cette personne. Ma manière de lui dire, par exemple, en ce moment, si c'est une phase dépressive, d'abord, va voir ton médecin, dors beaucoup, toutes ces questions, on verra plus tard. Parce que l'immensité là écrase. Et donc ça ne sert à rien de sortir un Dieu qui écrase, parce que de nouveau, comment on est stratège? Si ça écrase, c'est pas Dieu. Donc avec une très bonne idée, reprends ton désir, regonfle-toi, vas-y, je l'écrase, c'est pas Dieu. Comment je le sais? En avançant, en reconnaissant que je me suis trompé, et de me dire, peut-être, bon, écoute, va te coucher, on verra ça demain. Et le lendemain, ça va un peu mieux. Ah, et ben, va continuer à dormir. Et c'est peut-être ça la solution. Au passage, quand on est en tiédeur, ce conseil va dormir, il est valable pour nous tous, hein, tout le temps. Ça, c'est une stratégie très claire du mauvais esprit. Qui se résume très très simplement. Prenez une voiture, partez de Paris, allez à Marseille, mais alors avec un défi hyper drôle, je mets zéro essence, batterie à zéro, je vois jusqu'où je vais. Bah nulle part. Et ça c'est nous quand on... Mais du coup c'est là que le malin est super fort, hein, parce que c'est vachement dur. C'est vachement dur d'aller se coucher quand on est crevé. Donc c'est là où petit à petit avec l'expérience on va détecter ça. Et en fait c'est pas du tout facile, quoi. En prépa, le discours était clair pour les élèves, il fallait 3 à 4 mois pour apprendre à se coucher. Donc je ne fais pas de ça. Hein. Et c'est là où je dis le malin, il est fort, quoi. C'est, on peut comprendre les trucs. Donc voilà où je mets la maladie. Cette fois, la tendresse de l'entourage. Peut-être. Mais alors pour aussi transmettre cette tendresse-là. Parce que c'est fou comme on va s'en vouloir d'être dépressif. Non mais j'ai du coup à rien, j'apprécie rien, je suis vraiment nul. Bon, c'est pas nul, t'es en panne. Et la dépression, c'est peut-être un outil formidable pour se préserver d'un poids qui est trop lourd. Du coup, pouf, le fusil saute. Bon, au moins, il n'y a plus l'agression. Enfin, en tout cas, je perçois moins l'agression. Ben, on va avancer comme ça. Comment j'éduque, c'est comment je suis partenaire de la tendresse.
Là, c'est de la haute voltige. Hein.
On passe notre temps à être maladroit, mais c'est pas grave, apprenons.
Vous dites qu'il n'y a que deux états. Enfin, si on considère qu'il n'y a que vraiment deux états, la parole de Dieu, on la discerne avec la paix. En désolation, il ne parle pas.
Si, il parle, mais c'est moi qui ne l'entends pas. C'est comme si lui, il parlait de là et moi j'étais comme ça.
Alors ça sert à quoi et qu'il parle?
Comment?
Alors pourquoi il parle, si il n'entend pas?
Parce qu'en fait, il est très fort, il ne se lasse pas de parler. Et qu'à un moment, alors là c'est de nouveau un acte de foi, hein, c'est-à-dire, si vous prenez votre expérience, regardez bien quand est-ce qu'à un moment vous avez entendu quelque chose, ça bascule. Bien souvent il y a une lassitude ici, j'en ai marre de ma vie de merde à un moment. Et ça crée le rebond. Et ce j'en ai marre de ma vie de merde, c'est ce qu'on va appeler justement Dieu qui appelle. Par exemple, mais ça fait quand même 5 week-ends que je ne sors pas. En fait j'en ai ras-le-bol, quoi. Ben, week-end 3, c'était impossible d'avoir ce raisonnement. Week-end 4, j'en avais vraiment marre de ne pas sortir. Week-end 5, j'en ai ras-le-bol, je vais me promener. Bon, victoire, j'ai enfin entendu, j'en ai marre de ne pas sortir. Ça, c'était Dieu qui me parlait. Donc je pars juste me promener, et claque, ça réalise. Ouais.
Alors j'ai entendu.
Mais oui, c'est-à-dire que, justement, il y a toujours un moment où je réentends. Mais ça, pour ici, ou pour là, j'ai pas la preuve que tu vas entendre. C'est juste la foi que je te propose. Je te propose juste de croire qu'après la pluie, c'est le beau temps. Je ne peux pas le prouver. Par contre, si je le sais, quand je retombe dans cette phase-là, je vais me dire, ah, je suis dans une phase où j'écoute rien. Qu'est-ce qu'il y aurait à écouter? Et petit à petit, le croyant va développer dans ces phases-là sa capacité d'écoute. Sa capacité de se dire, quand j'ai mal, ah, c'est peut-être qu'il y a un truc à l'inverse à comprendre. J'ai mal de ces week-ends difficiles où je m'emmerde et je me nécrose. Hein, c'est que j'ai un appel à la vie. Ah si, j'ai repéré, j'ai l'habitude. Et hop, je repars plus vite. En désolation. Pourquoi je ne change pas mes décisions? Parce que ici, je prends des décisions orientées vers là. Donc en désolation, en fait, si je prends des décisions, elles vont orienter vers là. Par contre, il y a des décisions à prendre là. C'est ne rien changer de la manière de faire que j'avais avant. Par contre, éventuellement, je peux réformer ce qui s'est dégradé. Typiquement, là, je prends exprès des exemples pas chrétiens, mais si vous voulez mettre avec la prière, ça marche. Là, ah, c'est marrant, je cours tous les jours. J'ai arrêté de courir. Et depuis, le boulot, ça ne va pas bien. Objectivement, c'était la même crise au boulot, mais en fait, courir me permet de digérer autrement la crise du bureau. Et donc là, ici, évidemment, j'ai une décision à prendre, recommencer à courir. Mais ce n'est pas là que je décide de quitter le boulot ou pas. Et donc, c'est ça où le mot décision n'est pas clarifié. Je décide de recourir, parce que quand j'étais là ou là, la course m'aidait, mais je ne décide pas à ce moment-là de quitter le boulot. Par contre, quand revient la consolation et que je peux dire « en effet, c'est compliqué au boulot, en effet, les relations de travail sont compliquées, en effet, il serait prudent peut-être de quitter ce travail. » Mais du coup, ce n'est pas la même décision là où je suis reconnecté à mon cap et je peux dire « oui, ce travail collabore à la paix, mais moi, je n'ai pas la force de ce combat-là. » Donc, je change de position, je change de métier, de peu importe, et en consolation, je peux le dire. Ça va ?
Oui. Moi, je suis étonné par le. Tu as parlé à un moment du malin, par le fait que dans tout discours, en fait, il y a quelque chose de très grave derrière, dans les choix à faire. Il y a vraiment Satan, en fait, là, qui nous parle aussi, et peut-être que tu y viens après, mais il y a un moment où il faut être capable de rejeter, de repousser, de dire non et de chasser de nos vies quelque chose. Est-ce qu'on en est vraiment capable, en fait est-ce qu'on peut vraiment identifier de manière certaine?
Je ne pensais pas que la réponse serait plus courte que la question. Ouais. Réponse, oui. En avant. Oui. C'est pas toujours commode, mais oui. Pourquoi? Parce que Dieu ne trompe pas, Dieu est notre allié. Il y a une asymétrie, on voyait ça hier, il y a une asymétrie entre Dieu et le malin. Donc oui, le malin est très très fort, mais Dieu il est très 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 très, très fort. Et Dieu dit, je suis avec toi. Donc, on sera à voir parfois, et alors?
Oui, vous disiez tout à l'heure, en phase de désolation, la stratégie c'est croire, en phase de désolation, la stratégie c'est...
profiter.
Pardon, excusez-moi, c'est l'inverse.
En phase de désolation,
c'est profiter, et en phase de désolation, c'est croire. Ouais. Je suis d'accord, mais je pense qu'il faut aller plus loin, parce que en phase de consolation, on profite. Mais je pense que c'est pas inintéressant de se souvenir qu'il y a eu des moments pas si faciles. Et inversement, un moyen de mieux vivre la phase de désolation, certes, il y a à la fois la promesse, etc., mais il y a aussi se remémorer qu'il y a eu des moments heureux. Et donc, alors il me semble que Saint-Bernard a dit des trucs assez succincts dessus, sur le sujet, mais j'arrive pas à trouver le concept. Et donc, ça me semble être des moyens de rééquilibrer ces phases pour qu'on ne soit pas dans dans des phases d'exaltation et inversement des phases dépressives. Un moyen de trouver un meilleur équilibre, de ne pas être dans du maniaco-dépressif.
On pourra voir ça cet après-midi ? La réponse est plus longue, là. Elle est après. Mais c'est très juste en tout cas. C'est très bien, c'est la phase d'après. De bien comprendre ces nuances.
Merci François pour ce teasing et merci Benoît pour le.